Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire sur Agora Côte d'Azur. Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Bien, ce début d'émission, je vais vous parler d'une femme. Oui, dans un livre, mais d'une femme. Rose. Elle s'appelle Rose. Et de la vie, elle n'en a que les épines. Rose, c'est le personnage principal du dernier texte de Nicolas Mathieu, qui s'appelle ce texte Rose Royale, et qui est paru aux éditions Inuit dans la collection Polaroid. Alors les auditeurs qui nous suivent savent que cette collection, c'est des textes courts, de ce qu'on appelle des novellas. Nicolas Mathieu, je le rappelle, prix Goncourt 2018 pour Leurs enfants après eux. Et cette femme, Rose, je cite, « Elle a grandi dans la Meuse, dans une famille du même genre, tramée de silence et de rancune, un bled minuscule avec deux usines et des pavillons en vis-à-vis, des angles morts et des haines qui remontaient à l'occupation. » Alors, dans la citation, il y a les familles du même genre. La famille du même genre, c'est celle de l'affaire Grégory. Même grisaille, même horizon bouché, même univers de drame, on va dire. Rose, elle traîne ses casseroles.
Même le son de natation.
Oui, c'est vrai, même le son de natation, effectivement. Rose, elle traîne ses casseroles. Surtout ses amours déçus, ses rencontres, ses nuits, où elle rencontre plus de coups que de tendresse, où elle ne parvient à voir des hommes que, je cite Nicolas Mathieu, la laideur des hommes dépassés ont touché l'orgueil et c'est le point qui partait, qui tombait. Mais Rose, elle ne se décourage pas, elle y croit encore. Juste, elle va prendre une petite précaution, elle se procure une arme. Ça la rassure, Rose, parce que, petit extrait, on verrait alors où était la force. Des cons, des brutes, des salauds, elle en avait connu. Rares étaient ceux qui avaient osé la frapper vraiment, mais tous à leur manière, parce qu'ils étaient plus forts, toujours en colère, et qu'ils s'en sentaient le droit, tous l'avaient mise au pas. Grâce au revolver, elle opposerait une butée au cours habituel des choses. Elle était décidée, elle presserait la détente s'il le fallait. Voilà, donc elle a cette arme. Et puis elle continue d'aller boire des coups, des pastis avec sa copine Marie-Jeanne.
La coiffeuse.
Un soir, dans un rade où elle a ses habitudes, ce bar s'appelle Le Royal, d'où le titre, Rose Royale, elle fait la connaissance de Luc. Lui, on pense qu'il va être différent. Elle pense surtout qu'il va être différent. Puis de toute façon, maintenant, elle est armée. Elle n'a pas ou plus d'illusions. Pas de désillusions. Donc à attendre. C'est un texte court qui fait moins de 80 pages, mais qui est d'une puissance et d'une intelligence rares. Un destin, une ligne de fuite, une fiction donc, en écho aux histoires vraies, dont on entend parler tous les jours. Ces histoires vraies, ces féminicides, ces coups qui pleuvent, qui nous heurtent et nous choquent, mais que beaucoup oublient très vite, trop vite. Alors ce texte, l'auteur l'a savamment tricoté avec une douceur étonnante, comme pour mieux souligner les incohérences d'une société qui s'insurge vite et fort, puis qui retombe dans une indifférence toujours renouvelée. Nicolas Mathieu nous raconte donc une histoire simple. Cette histoire de fille de ferme, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette nouvelle de Guy de Maupassant. Et dans cette histoire, la fille de ferme, elle s'appelait Rose. Tiens, c'est étonnant. Les lecteurs, en tout cas, quand ils auront lu le texte de Nicolas Mathieu, se souviendront longtemps de Rose. La Rose du bar Le Royal. Enfin, s'ils ont la bonne idée d'aller fouiller et fouiner chez leur libraire habituel, parce que ce très beau texte risque fort d'être écrasé par les nombreux livres très lourds et très épais qui sortent en ribambelle pour cette période, pour les fêtes, pour Noël, pour la fin de l'année. Mais un texte de cette valeur, cette pépite, il ne faut surtout pas la louper. Donc, réclamez ce texte. Je rappelle le titre, Rose Royale,
de Nicolas Mathieu, aux éditions Inuit dans la collection Polaroid.
Merci beaucoup Jacques, tu vas nous parler d'un petit peu de musique.
Oui, au départ je voulais mettre la musique du film Le Nom de la Rose, je trouvais ça malin, mais en fait pas tellement. Donc j'ai choisi un disque à l'ambiance, c'est pas la même ambiance, mais bon, c'est pas gay non plus. C'est le premier album posthume de Leonard Cohen, qui a été mis au point par son fiston Adam. L'album s'appelle Thanks for the Dance et le titre que l'on va écouter s'appelle Happens to the Heart. Il a toujours cette voix grave et profonde et ce phrasé tranquille.
I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah what happens to the heart. A mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit what happens to the heart. Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. Just a look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Devil's got a harp. Every soul is like a minnow. Every mind is like a shark. May I've broken every window, but the house is dark. I care but very little. What happens to the heart?
Et voilà, c'était donc Leonard Cohen dans son dernier album.
Et on a le grand plaisir de retrouver Jean-Marc Laherrère. Jean-Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Ça fait plaisir, ça fait longtemps que nos calendriers n'avaient pas coïncidé, donc on a enfin le plaisir de pouvoir vous réécouter.
C'est vrai qu'on s'est beaucoup raté ces
voilà.
derniers temps.
Vous allez nous parler d'un roman de Nelly Tucker, me semble-t-il.
Exactement. Donc c'est un roman de Nelly Tucker qui s'appelle « Seules les proies s'enfuient », qui est paru à la Série Noire et qui est traduit par Sébastien Reiser, ou Reiser, je ne sais pas comment on dit. C'est pas le Reiser, malheureusement.
Non, non.
Voilà. C'est l'auteur, en fait.
C'est l'auteur. Voilà. C'est un auteur, oui, qui a été publié à la Série Noire aussi. Donc, de quoi s'agit-il? En fait, c'est le troisième roman d'une série, enfin, c'est le troisième avec un personnage récurrent. Le premier s'appelait La Voix des Morts. Il y a eu À l'ombre du pouvoir. Et le personnage récurrent, c'est Sully Carter. Alors Sully Carter, il est journaliste au Washington Post. Il a été correspondant de guerre pendant longtemps. Il a failli mourir en Bosnie. Il a vu des gens qu'il aimait beaucoup mourir en Bosnie. Et depuis, il est rentré à Washington parce que il boite, il est un peu amoché physiquement et psychologiquement aussi. Alors psychologiquement, il soigne ça au Bourbon. Physiquement, bah, il fait ce qu'il peut. Voilà, donc ce personnage qui travaillait donc à Washington se trouve au tout début dans une première scène qui est assez saisissante dans ce roman, Seuls les proies s'enfuient. Il se trouve au Capitole parce que c'est le mois d'août, il n'y a pas grand monde, et donc alors que lui d'habitude suit plutôt les faits divers, se retrouve à aller suivre un homme politique qui va sortir une loi, on ne sait trop quoi. Il se trouve qu'il est planqué sous une table parce que alors qu'il est au Capitole, il entend des tirs et visiblement quelqu'un a réussi à rentrer. Et elle commence à faire un carton au Capitole. Et alors que la plupart des employés et des journalistes politiques sur place font tout ce qu'ils peuvent pour s'échapper, lui, il reprend ses réflexes de correspondant de guerre et au lieu de s'éloigner de là où il entend les tirs, au contraire, il essaye de s'en rapprocher. Il va s'en rapprocher de plus en plus jusqu'à se trouver dans cette scène qui est assez impressionnante dès le départ. Il va se retrouver planqué pas très loin de là où se trouve le tueur et il va être témoin d'un coup de téléphone que le tueur passe au FBI où il dit s'appeler, donner un nom, Terry Running Waters, visiblement indien. Et puis le tueur réussit à s'échapper. Et au moment où il s'échappe, il y a eu 8 personnes tuées. Et surtout, visiblement, il était venu pour s'occuper du représentant de l'Oklahoma que Nelly Tucker retrouve avec des pics à glace enfoncés dans les yeux. Alors ça fait un sacré scoop. Il est le seul journaliste sur place. Il a des informations que personne d'autre sauf le FBI n'a. Et donc, tout va se jouer à partir de là. Déjà, qu'est-ce qu'il a le droit de publier avec son journal? Qu'est-ce qu'il va pour publier? Et puis, quand il va publier un certain nombre de choses, le tueur va commencer à l'appeler, à vouloir lui parler, parce que le tueur continue à échapper au FBI, et il va s'apercevoir qu'il y a une anguille sous roche. Voilà. Ça, c'est pour un peu planter l'ambiance. Voilà, l'ambiance. C'est un autre, il fait chaud, et il picole, et voilà. Et alors, ce qui fait la caractéristique pour moi de ces romans, alors déjà on est à Washington, donc depuis que Georges Pelecanos n'écrit plus beaucoup puisqu'il se travaille sur des séries, on n'avait plus beaucoup de romans qui se passaient à Washington, ben voilà, on en a une nouvelle série là, qui démarre avec Nelly Tucker, donc ça permet de suivre l'évolution de cette ville. Mais ce qui caractérise ce roman, Nelly Tucker, il est journaliste au Washington Post. Il connaît parfaitement le fonctionnement d'un journal. Et dans ces trois romans, il y a un suspense, en plus du suspense de savoir qui a tué, etc., etc., il y a toujours des suspens supplémentaires qui sont qu'est-ce qu'on a le droit de publier dans un journal. Il y a toujours le juriste qui est là. Il y a toujours des histoires autour de comment on vérifie, comment on est sûr à 100% de l'information, est-ce qu'on a le droit de la publier ou pas, est-ce qu'on va être attaquable ou pas, est-ce qu'on va laisser le journaliste le faire ou est-ce que c'est le juriste qui va avoir le dernier mot et va imposer un certain nombre de précautions. C'est extrêmement bien fait, ça. On sent vraiment le vécu. Et ça, c'est un des gros intérêts de cette série qui met en scène un journaliste écrit par quelqu'un qui sait parfaitement, mais vraiment parfaitement, comment ça fonctionne.
Et c'est vrai que c'est dans la grande tradition américaine d'avoir un personnage de journaliste.
Exactement. Mais c'est pas toujours aussi bien fait. Là, vraiment, on sent... c'est criant de vérité. C'est les séances dans le bureau du directeur avec les juristes et autres, elles sont vraiment... Comme la plupart des lecteurs français, voire tous les lecteurs français, je ne me suis jamais trouvé dans ce genre de situation. Mais ça sonne très 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 vrai. Vraiment. Mmh. Ensuite, l'intrigue, il sait parfaitement construire une intrigue. Son personnage qu'on suit depuis le début, petit à petit, on apprend à le connaître, il s'épaissit. Moi, c'est dans la grande tradition aussi des personnages récurrents, ouais. Quand c'est bien fait. Et là, c'est très bien fait. Et puis, je ne me souviens plus exactement s'il y avait une thématique centrale dans le premier roman. Dans le deuxième, ça tournait beaucoup autour du passé qui était à l'ombre du pouvoir. Ça tournait autour du passé esclavagiste. De Washington, c'était très bien fait. Alors dans celui-là, je ne peux pas vous dire quelle est la thématique, parce que c'est un des ressorts de l'intrigue. Et ça n'arrive petit à petit que vers le milieu du roman. Mais il y a aussi une thématique assez sombre, assez noire, sur l'histoire de Washington et l'histoire américaine, qui va se mettre en place et qui est très émouvante, qui est très prenante. Et du coup, en plus d'une intrigue très bien menée, de personnages intéressants, il y a du fond derrière. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment une très belle série qui a, je pense, pas encore le succès qu'elle mérite.
Non, c'est vrai qu'on en parle peu. Alors je reviens, on a hésité sur la prononciation de Sébastien Reiser, donc Reiser, je pense. Mais c'est pareil, au début, certains ont pu croire Nelly Tucker, on ne sait pas trop comment le prononcer, c'est bien un homme, hein, l'auteur, oui. C'est un écrivain, c'est pas une auteure-autrice.
Oui. Non, c'est pas Nelly, c'est Nili, N-2-E-L-Y. Voilà. Et moi, je conseille vraiment cette série. Alors, on peut parfaitement lire le
troisième
tout seul. Il se lit absolument. Il n'y a aucun souci pour le lire tout seul. Il n'y a pas de prérequis. Il donne les informations qu'il faut, mais ça, c'est très intéressant de lire les trois.
Est-ce que les deux premiers, j'ai pas regardé, est-ce que les deux premiers sont reparus en folio ?
Ah, ça, je ne saurais pas dire.
On sait pas. On va regarder, puis s'il le sent, on le mettra sur le site.
Oui.
Souvent, c'est bien d'aller.
Voilà, le premier était paru en 2015, La Voix des Morts. Et le deuxième était paru en 2017, C'est à l'ombre du pouvoir. Tous à la série noire, par contre, avec des traducteurs qui ont changé, puisque c'était Alexandra Maillard qui a traduit les deux premiers. Et cette fois-ci, c'est donc Sébastien Reiser. Voilà. Donc une belle série. Une belle série à découvrir. Et on espère, bien entendu, qu'il y en aura d'autres, puisque le...
Donc le personnage n'est pas mort à la fin, voilà, ça y est, vous l'avez dit.
Non, le personnage n'est pas mort à la fin, c'est un caractère
comme ça, il peut y en avoir un quatrième.
Comme il faut, donc voilà. Et vu que le roman date de 2016, on peut supposer qu'il y en a déjà d'autres qui ont été publiés aux États-Unis.
Eh bien écoutez, ça, en tout cas, ça nous a donné envie de le lire, ça donne envie peut-être aussi de l'acheter et de l'offrir pour dans pas longtemps, comme on dit.
Exactement.
Merci beaucoup Jean-Marc, on se retrouve bientôt et puis on peut vous retrouver très très régulièrement, retrouver vos chroniques sur le blog Actu du Noir. Voilà, il suffit de taper, de googliser Actu du Noir pour avoir plein de conseils de très très bons romans. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci à vous, séchez bien et puis peut-être bonne fête et si on s'appelle pas d'ici là.
Exactement, merci, au revoir. Il reste juste une minute et ça me donne l'occasion d'annoncer. On a l'habitude régulièrement de vous parler de l'actualité, des prix littéraires, et évidemment en ce qui concerne le roman noir et le polar. Et bien là, je vais vous annoncer les quatre romans, enfin les quatre ouvrages qui ont qui se sont vus décerner des trophées par la plus grosse association autour du roman noir et du polar des Amis des littératures policières, c'est l'association 813. Donc un trophée pour le roman francophone Colin Niel, Sur le ciel effondré, c'est aux éditions du Rouergue, roman paru en 2018. Pour le roman étranger, trophée remis à Valerio Valeresi pour Les Ombres de Montelupo, c'est aux éditions Agulo.
Une enquête du commissaire Sonneri.
Voilà. Nous avons très rapidement la collection Double Noir créée par Claude Nespled pour le meilleur essai document. Et enfin, pour la meilleure BD, Jean-Patrick Manchette avait fait un très beau roman qui s'appelait Nada. Max Cabane l'a merveilleusement mis en couleur avec l'aide de Doggedline qu'il a scénarisé. Ça s'appelle Nada, c'est chez Dupuis. Voilà, on se retrouve dans quelques instants.